Voilà, pour commencer cette matinée, donc on va évoquer la joie dans le Nouveau Testament. Heureux, bienheureux. Alors vous vous souvenez certainement qu'au soir de la scène, alors qu'il arrive au point culminant de sa mission sur la terre, notre Seigneur s'est adressé ainsi à son Père. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Et donc on voit très bien ici que le but de la rédemption se trouve comme condensé là, qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Cette joie que le Seigneur veut nous donner, qui est la sienne propre, eh bien nous la voyons se déployer tout au long des évangiles, depuis l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, « Réjouis-toi », comme l'a souligné frère Clément-Marie hier, hein, « Comblé de grâce, le Seigneur est avec toi », jusqu'à l'ascension de notre Seigneur, après laquelle les apôtres retournent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient, nous dit saint Luc, sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Et elle éclate ensuite dans les actes des apôtres à travers la mission de l'Église, dans le souffle de l'Esprit-Saint. La source de cette joie, c'est la présence de Dieu au milieu des hommes. Annoncée et déjà en germe dans l'Ancien Testament, elle prend une nouvelle dimension dans le Nouveau Testament, car dorénavant, avec Jésus, Dieu est vraiment l'Emmanuel, il est Dieu avec nous et il le reste pour toujours. Les épîtres à la suite des évangiles vont s'efforcer de nous transmettre cette joie et elles nous exhortent à la conserver. On peut penser à toutes les exhortations de saint Paul, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ». Et cette joie à conserver jusqu'à atteindre la Jérusalem céleste, décrite par l'Apocalypse, où Dieu essuiera toute larme de nos yeux et où une joie sans ombre nous attend. Alors, du Nouveau Testament, nous retiendrons trois leçons sur la joie. D'abord, que c'est Dieu la source de cette joie, et qu'en Jésus, cette joie s'est incarnée. Ensuite, et ce sera la vraie nouveauté de ce Nouveau Testament, que cette joie peut se trouver au sein même des épreuves, ça sera le lien entre la croix et la joie. Et enfin, que si Dieu nous donne sa joie, nous pouvons et nous devons, nous aussi, faire la joie de Dieu. Donc première partie, Dieu, source de la vraie joie, et la joie incarnée en Jésus. En réalité, écrit Benoît XVI, les joies authentiques, que ce soit les petites joies du quotidien comme les grandes joies de la vie, toutes trouvent leur source en Dieu, même si cela ne nous apparaît pas immédiatement. La raison en est que Dieu est communion d'amour éternel, qu'il est joie infinie et qu'il n'est pas renfermé sur lui-même. Cette joie se propage en ceux qu'il aime et qu'il aime. Et dans la mesure où il est un être spirituel, créé par Dieu et pour Dieu, l'homme ne peut trouver de repos et donc de joie parfaite que dans l'union avec son Créateur. Finalement, c'est parce qu'il est créé à l'image de Dieu, qu'il est comme en quelque sorte dimensionné à Dieu, que toute autre chose que Dieu est trop petit pour l'homme, pour les désirs infinis de son cœur. Or, nous ne pouvons pas mettre la main sur Dieu. Nous ne nous unissons à lui que s'il veut bien se donner à nous. Nous ne pouvons donc recevoir la joie que comme une grâce. Pour résumer, la vraie joie pour l'homme ne se trouve qu'en Dieu, dont la joie se répand et se propage comme une grâce que l'homme reçoit. Alors que la tristesse s'était introduite dans le monde avec le péché originel, Dieu n'a pas abandonné les hommes. Sa joie a continué à se propager aux hommes qui ont bien voulu la recevoir. Et nous lisons ainsi dans l'Ancien Testament de très belles pages, pleines d'allégresse et d'exultation. On peut penser à la joie, par exemple, de l'accueil de l'Arche d'Alliance à Jérusalem, où le roi David danse et tournoie devant elle. Mais avec Jésus, nous franchissons un pas supplémentaire. Nous pouvons dire qu'en Jésus, la joie divine s'est incarnée et que nos joies humaines en ont été divinisées. En son humanité, écrit Paul VI, Jésus a fait l'expérience de nos joies. Il a manifestement connu, apprécié, célébré toute une gamme de nos joies humaines, de ces joies simples et quotidiennes à la portée de tous. Il admire les oiseaux du ciel et les lys des champs. Il exalte volontiers la joie du semeur et du moissonneur, celle de l'homme qui trouve un trésor caché, celle du berger qui récupère sa brebis ou de la femme qui retrouve la pièce perdue, La joie des invités au festin, la joie des noces, celle du père qui accueille son fils au retour d'une vie prodigue, et celle de la femme qui vient de mettre au monde son enfant. Ces joies humaines ont tant de consistance pour Jésus, continue-t-il, quels sont pour lui les signes des joies spirituelles du royaume de Dieu. Et de la joie apportée par le Seigneur, nul n'est exclu, nous assure encore Paul VI. En effet, dès le soir de Noël, l'ange annonce au berger « Voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Alors parce que le Sauveur attendu depuis des siècles est là, et qu'avec lui, c'est déjà le salut qui est apporté au monde, une joie nouvelle nous est donnée. Léon XIV, dans sa première encyclique, parle de la joie de la Vierge Marie qui transparaît dans son Magnificat. Il dit « Rien n'a changé autour d'elle. La situation sociopolitique de son époque reste la même, avec les Romains qui dominent sa terre, et son peuple divisé et humilié. Et pourtant, tout a changé en elle, ce qui lui permet de voir l'invisible. En effet, la Vierge Marie voit le dessein de Dieu s'accomplir. L'Évangile nous donne à contempler la joie qui naît de la rencontre avec Jésus. On peut penser à l'épisode avec Zachée. Zachée accueille avec joie le Seigneur Jésus qui veut venir demeurer chez lui et ce collecteur d'impôts qui volait ses frères change de vie. La joie de cette rencontre n'est donc pas éphémère. Elle transforme toute l'existence. Et finalement, comme en témoigne Saint Luc à de nombreuses reprises dans son évangile, l'une des plus grandes joies est la joie de la conversion. D'un cœur qui non seulement rencontre Jésus, mais qui s'ouvre à lui et qui s'engage à sa suite. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham, conclut Jésus au sujet de Zachée. En effet, dit-il, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Encore aujourd'hui, en toutes circonstances, nous pouvons trouver la joie parce que sur tous nos chemins, nous pouvons rencontrer Jésus. En effet, l'Évangile nous montre qu'il n'est pas une seule situation de la vie humaine par laquelle il n'est passé. Les honneurs, les humiliations, les persécutions, les joies, les tristesses, les privations, les voyages, les travaux fatigants, nous le trouvons partout et même à un festin de noces. Et conclut l'abbé Fillon dans son commentaire sur l'Évangile, partout, nous le trouverons divin et nous apprendrons de lui la manière dont nous devons agir à sa suite. Dans le Nouveau Testament, nous voyons combien Dieu désire nous donner la joie. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite, nous dit Jésus. En citant le psaume 105, « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu », le catéchisme de l'Église catholique précise « Si l'homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, lui, ne cesse d'appeler tout homme à le chercher pour qu'il vive et trouve le bonheur. » Mais cette quête exige de l'homme tout l'effort de son intelligence, la rectitude de sa volonté, un cœur droit, et aussi le témoignage des autres qui lui apprennent à chercher Dieu. Nous voyons donc que la quête de la joie est exigeante, et Jésus nous le dit dès le début de son enseignement à travers les béatitudes. Pour être heureux, il faut nous efforcer d'être pauvres de cœur, doux, assoiffés de justice, miséricordieux, purs, artisans de paix, et ne craindre ni les persécutions, ni d'avoir parfois à pleurer. Car elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie, nous dit l'Évangile. Si Jésus rayonne une telle paix, une telle assurance, une telle allégresse, une telle disponibilité, c'est, nous dit Paul VI, à cause de l'amour ineffable dont il se sait aimé de son Père. Et donc c'est l'échange d'amour avec son Père qui fait la joie de Jésus, et réciproquement. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie », proclame la voix du Père au moment du baptême de Jésus. Avec Jésus, nous apprenons ainsi que la joie vient du don. En Dieu lui-même, tout est joie parce que tout est don, écrit encore Paul VI. Et Jésus veut nous faire entrer dans cette logique du don par le commandement de l'amour. Il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ». comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Certes, nous savons que la joie plénière ne s'obtiendra qu'au ciel, et il vaut la peine pour l'obtenir de donner dès ici-bas et avec joie tout ce que l'on a. C'est la parabole du trésor caché dans un champ ou de la perle de grand prix. Mais cette joie du ciel, nous la possédons en germe sur cette terre et elle surpasse toutes les joies de cette terre. Alors qu'ils reviennent de mission tout heureux, Jésus déclare aux disciples « Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Pourtant, nous le savons bien, la vie de cette terre est marquée par les épreuves et la souffrance. Alors, comment la joie se maintiendrait-elle dans de telles conditions ? Et nous abordons ici la véritable nouveauté du christianisme dans notre deuxième partie, la joie dans les épreuves. La joie trouvée dans les épreuves, dans la persécution supportée pour Dieu, est en effet un thème inédit dans le judaïsme. Certes, avec le livre de Job, les membres du peuple de Dieu pouvaient entrevoir que le juste pouvait être mis à l'épreuve sans faute de sa part. Mais de là à vivre cette souffrance dans la joie, le fidèle du Christ, lui, garde son assurance dans les épreuves, parce qu'il sait que les puissances du mal ont perdu la bataille définitive. Le mal n'aura pas le dernier mot sur leur vie. Edith Stein, avant sa conversion, a ainsi été bouleversée par le témoignage de sérénité de la jeune veuve de son ami Adolf Reinhardt, mort à la guerre en 1917. Elle écrit « Ce fut ma première rencontre avec la croix et avec la force divine qu'elle donne à ceux qui la portent. Je vis pour la première fois l'Église, née de la souffrance rédemptrice du Christ dans sa victoire sur l'aiguillon de la mort, visible devant moi. Ce fut l'instant où mon incroyance s'effondra, mon judaïsme pâlit et le Christ étincela, le Christ dans la lumière de la croix. » En effet, c'est sur la croix que Jésus est vainqueur du mal et qu'il a donné sa vie pour nous, afin de nous communiquer la joie dont son amour est la source. Et depuis, la joie du royaume est intimement liée à la passion du Sauveur. Et les disciples du Christ ne peuvent pas rester étrangers à cette passion de leur maître. La croix est devenue comme la porte vers la vraie joie. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, dit saint Pierre dans sa lettre, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Vous l'avez souligné hier, c'est essentiellement l'espérance qui, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, nous procure la joie dans l'épreuve même. Ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière, exhorte saint Paul. Ou, pour le dire avec saint François d'Assise, le bien que j'attends est si grand que toute peine m'est un délice. Il y a quelques jours, nous avons pu lire le témoignage émouvant de Massi, un catholique pakistanais aveugle, qui a été emprisonné pendant 10 mois pour de fausses accusations de blasphème. Alors qu'il vient d'être miraculeusement acquitté, il dit avoir pardonné à ses persécuteurs et il déclare « Je ne suis pas en colère contre ceux qui m'ont fait du mal. Je suis simplement rempli d'une joie pure à l'idée de tenir à nouveau la main de ma mère Martha, d'être entouré de mes sœurs et de recevoir la bénédiction du père Shafik au milieu d'une pluie de pétales de roses. » Quand il commente les béatitudes dans l'évangile selon saint Luc, l'abbé Fillon précise que pour la dernière, celle qui concerne la persécution à cause de Jésus, saint Luc utilise un verbe grec qui signifie littéralement « bondir de joie ». Quelle énergie d'expression, dit-il. Excommunié, bafoué, persécuté. Les disciples de Jésus non seulement ne devront pas s'attrister et se décourager, mais ils pourront s'abandonner à la joie. Bien plus, la simple joie sera insuffisante, il faudra qu'ils tressaillent d'allégresse. Et nous pouvons encore aller plus loin. Avec la force qui nous vient de Jésus et pour son amour, non seulement nous pouvons garder la joie au cœur des épreuves, mais plus encore, la joie comme fruit de la croix peut jaillir de l'épreuve elle-même. Saint Edith Stein, devenu carmélite, écrit « Aider à porter la croix du Christ donne une joie pure et profonde. Souffrir et trouver dans la souffrance sa félicité. Se tenir debout et avancer sur les sentiers rudes et boueux de cette terre tout en trônant avec le Christ à la droite du Père. Rire et pleurer avec les enfants du monde et chanter sans cesse les louanges du Seigneur avec le cœur des anges, telle est la vie du chrétien, jusqu'à ce que se lève le matin de l'éternité. » Et dans le même sens, Mère Marie-Augusta écrit à ses enfants spirituels « Nous aurons aussi bien des joies et des consolations, et surtout la joie d'aider Jésus à sauver les âmes. Je souffre, mais par amour pour Jésus, j'ai de la joie dans ses souffrances. » La souffrance devient source de joie dans la mesure où, en l'acceptant, elle devient une preuve d'amour envers Dieu, mais aussi une participation au salut des âmes, à l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus, en union bien sûr et en dépendance de celle-ci. Et c'est ce qui fait dire à saint Paul lorsqu'il s'adresse aux Colossiens « Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » De plus, la véritable joie ne se trouve que dans une foi éprouvée, et ce, notamment par les épreuves. D'où l'exhortation de saint Jacques déjà citée hier. « Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. » Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait et intègre sans que rien ne vous manque. Nous voyons que la joie dans l'épreuve est donc la marque du disciple du Christ qui s'efforce de répondre à l'appel du Maître. Vous donc, vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. Cette joie peut ne pas être ressentie. Elle n'en demeure pas moins réelle dans la mesure où elle nous garde dans la paix du cœur. C'est la joie qui naît de la certitude qu'en toute circonstance, je suis aimée du Seigneur et que je peux compter sur son appui. Comme illustration, saint Paul Le Baotin, qui est un prêtre martyr du Vietnam en 1857, écrit depuis sa prison. Cette prison est vraiment une figure de l'enfer éternel. Aux liens, aux kangs et aux entraves viennent s'ajouter des colères, des vengeances, des malédictions, des conversations impures, des rixes, des actes mauvais, des serments injustes, des médisances auxquelles se joignent aussi l'ennui et la tristesse. Mais celui qui a déjà délivré les trois enfants des flammes ardentes est aussi demeuré avec moi. Il m'a délivré de ces maux et il me les convertit en douceur, parce que dans tous les siècles est sa miséricorde. Par la grâce de Dieu, au milieu de ces supplices qui ont coutume d'attrister les autres, je suis rempli de gaieté et de joie. Parce que je ne suis pas seul, mais le Christ est avec moi. C'est lui, notre Maître, qui supporte tout le poids de cette croix. Pour moi, mes amis, je n'en ai à soutenir que la plus légère extrémité. Quel beau témoignage et quelle consolation! Nous voyons combien dans nos épreuves les plus lourdes, même si nous ne le sentons pas, le Seigneur se fait proche. La joie chrétienne n'est pas une fuite de la réalité, nous dit Benoît XVI, mais elle est une force surnaturelle pour affronter et vivre les difficultés quotidiennes. Nous savons que le Christ crucifié et ressuscité est avec nous, qu'il est l'ami toujours fidèle. Quand nous prenons part à ses souffrances, nous prenons part aussi à sa gloire. Avec lui et en lui, la souffrance est transformée en amour, et là se trouve la joie. Et nous abordons notre troisième et dernière partie. Nous avons dit que Dieu nous donne la joie, qu'il est pour nous la source de la joie dans la paix comme dans les épreuves. Mais tout comme l'amour, la joie ne peut être plénière que lorsqu'elle se partage. On ne peut pas être heureux si les autres ne le sont pas. La joie doit donc être partagée, écrit Benoît XVI. Partagée non seulement avec ceux qui nous entourent, mais aussi, et nous n'y pensons peut-être pas assez, avec Dieu. Nous pouvons et nous devons donner de la joie à Dieu. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, chante le psaume 103. Et qu'est-ce qui fait la joie de Dieu ? L'Évangile nous signale plusieurs événements qui provoquent la joie de Dieu, la joie de Jésus. Pensons tout d'abord, comme nous l'avons évoqué hier, au tressaillement de Jésus lorsque ses disciples reviennent de mission, tout joyeux. « À l'heure même, écrit l'Évangile, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus tressaille d'allégresse en voyant que les petits, les humbles qui mettent leur confiance en lui, pénètrent les mystères que Dieu veut leur révéler. Il leur révèle ainsi les mystères du royaume et ils ont part à la connaissance intime qui unit le Père et le Fils. Pour faire la joie de Jésus, nous devons donc, nous aussi, cultiver l'humilité, mettre notre confiance en Jésus et accueillir son évangile, tout son évangile. Mais c'est aussi le retour de ces enfants égarés, de ces brebis perdues qui mettent le cœur de Dieu en fête. « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Et plus loin, dans la conclusion de la parabole de l'enfant prodigue, « Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et chose inouïe, la conversion du pécheur réjouit non seulement le cœur de Dieu et le cœur de celui qui se repent, comme nous l'avons vu avec Zachée, mais également les anges du ciel. En effet, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit, affirme Jésus. Soulignons enfin la déclaration du maître de maison au bon serviteur de la parabole des talents. « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » La joie de ton Seigneur se comprend premièrement comme étant le royaume de Dieu lui-même. Le bon serviteur est admis à partager la joie du royaume. Mais en attendant la joie du ciel, nous pouvons aussi en déduire que la fidélité du chrétien dans les petites choses participe à la joie de Dieu. Et que Dieu se réjouit de voir que nous mettons à profit, justement pour faire advenir son royaume, les talents qu'il nous a confiés et que nous ne laissons pas perdre les grâces qu'il nous a accordées. Parmi les grâces que Dieu accorde, il est une grâce de choix, la grâce de l'appel, la grâce de la vocation. En y répondant, les prêtres et les consacrés ont la joie d'être plus intimement unis encore à Jésus, à leur Sauveur. Et par là même, ils sont appelés à donner plus de joie encore à Jésus. C'est pourquoi Mère Marie Augusta écrit à ses enfants spirituels « Nous devons faire la joie de Jésus, être à lui, rien qu'à lui, tout à lui, pour les âmes. » Une dernière remarque. Nous avons dit tout à l'heure que la véritable joie vient du don. Or, nous ne donnerons de la joie à Jésus que si nous donnons joyeusement. C'est la leçon de saint Paul aux Corinthiens, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Je conclus. Et pour terminer cet enseignement sur la joie dans le Nouveau Testament, je voudrais tout simplement vous offrir les mots de saint Paul, encourageant les différentes communautés chrétiennes pour qu'elle demeure dans la joie malgré les inévitables épreuves. Alors je viens de Bergerac et je ne résiste pas à l'envie de vous les citer à la manière de Cyrano. Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet, dit-il. Qu'ils soient pour vous une source rafraîchissante en ces temps caniculaires, et qu'au jour d'épreuve, ils vous apportent le réconfort qui vient du Seigneur. Frères, soyez dans la joie. Cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.